RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denise Epoté de TV5 Monde, Valérie Thorin du mensuel Afrique-Asie et puis Francis Patindé, journaliste indépendant et chargé de cours à Sciences Po Paris. Alors c'est autour de trois sujets cette semaine. La guerre au Soudan du Sud et son cortège de chaos humanitaire, une crise examinée ce jeudi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Au Maroc, le numéro 2 du PJD, Saadeddine El Othmani, nouveau Premier ministre en lieu et place du numéro 1 du parti islamiste, Abdelilah Ben Kiran. Et puis au Ghana, le premier gouvernement pléthorique du président Nana Akufo-Addo. Élu en décembre dernier, pas moins de 110 portefeuilles, un record. Alors d'abord, cette situation donc du Soudan du Sud, plus de 3 ans de guerre et ses conséquences humanitaires tragiques au menu des travaux donc hier du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. D'abord, la situation humanitaire au Soudan du Sud, présentée par Babar Balogh. C'est l'un des porte-parole du HCR, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés.
8 mois après l'éclatement de la violence au Soudan du Sud, une famine produite par la combinaison des combats et de la sécheresse amène aujourd'hui à la crise des réfugiés qui grandit le plus rapidement au monde. Le total des déplacements du Soudan du Sud vers la région voisine est maintenant de 1,6 million de personnes. Le taux de nouveaux déplacements est alarmant et représente un fardeau impossible pour une région qui est significativement plus pauvre et où il ne restera plus beaucoup de ressources pour s'en sortir.
Of resources to cope.
Voilà une situation alarmante. Le Conseil de sécurité de l'ONU, donc, qui s'est réuni hier jeudi à New York, au siège de l'ONU, à propos du Soudan du Sud. Une réunion précédée par un rapport d'experts de l'ONU sur les liens entre la guerre et la crise humanitaire qui règne au Soudan du Sud. 100 000 personnes en situation de famine et près de 2/3 des 12,5 millions de Sud-Soudanais confrontés, Denise, à une insécurité alimentaire. Alors, le Conseil de sécurité s'est cependant borné juste à faire une déclaration appelant à la reprise des négociations, appelant à l'arrêt des hostilités et puis à l'accès sans entrave des agents humanitaires aux populations. Service minimum.
Un énième rapport, parce qu'on a le sentiment que depuis la crise du Biafra en 67, il y a 50 ans, les Nations Unies n'ont pas tiré de leçon de la gestion justement de ces crises humanitaires consécutives aux guerres qui se produisent. Le début de la guerre en 2013, au lendemain de 2 ans juste après l'indépendance de ce petit pays, Salva Kiir consacre la moitié de son budget à acheter des armes. Ce qu'il faut, c'est un embargo sur les armes qui empêcherait justement qu'il y ait ces tensions entre les rebelles de son prédécesseur, Riek el-Machar et lui-même, et qui conduisent à un exode des populations, donc à un départ des terres, même les plus fertiles, notamment dans la région de l'Équatoria, qui sont totalement abandonnées. Il y a un magnifique livre qui vient d'être écrit par un ancien fonctionnaire du HCR, Hubert Edogo, sur le marché de l'humanitaire en Afrique, un livre qui a été préfacé par le président Abdou Diouf, et qui montre bien justement l'incapacité des dirigeants à anticiper ces crises-là, parce que ce qui manque, c'est la volonté politique d'une part, et puis un manque de vision, parce qu'on sait très bien que les guerres entraînent toujours un exode des populations, donc un départ massif des terres les plus fertiles.
Alors, on voit bien, Francis, qu'il y a un lien direct entre cette guerre et notamment la situation de famine dans l'État de l'Unité, car l'État de l'Unité, c'est le fief, la région d'origine de Riek Machar, donc le principal rival du président Salva Kiir, Riek Machar, qui est à l'origine de cette rébellion contre le chef de l'État qui voulait l'évincer et qui aujourd'hui est exilé, Riek Machar, en Afrique du Sud. Donc on voit bien que cette famine se situe dans un endroit bien précis du Soudan du Sud.
Absolument, parce que ça ne procède pas de l'économie. Le Soudan est un pays extrêmement riche en son sous-sol, mais également, il y a des régions agricoles. Cette famine est la conséquence directe de l'hostilité meurtrière entre deux hommes, le président Salva Kiir et son premier ministre, aujourd'hui exilé. Et
c'est extrêmement... Ex-vice-président.
Ex-vice-président, absolument. Et ce qui est grave, c'est que aujourd'hui, vous avez 2 millions de déplacés dans ce pays, 1,5 million de réfugiés dans les pays voisins, au Kenya, en Ouganda, à RDC, et en Centrafrique et ailleurs. Donc, cette situation est extrêmement grave. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que le président Salva Kiir est quand même dans une situation pour le moins exceptionnel. Vous savez que son mandat électoral est terminé. Et il a été élu pour 4 ans en 2011 et aujourd'hui, le mandat est terminé. L'Assemblée nationale a prorogé ce mandat de 3 ans. On est dans un vide juridique.
Et dans un régime d'exception.
Un régime d'exception. Il dirige à sa guise ce pays qui est immensément riche, je le rappelle.
Alors, le représentant de la France auprès de l'ONU, Valérie, autrement dit François Delattre, a demandé, a réclamé une solution politique et inclusive au Soudan du Sud. À la limite, ça laisse complètement indifférent Salva Kiir. Salva Kiir est sourd, finalement, à toutes sortes de propositions de la communauté internationale. On l'a vu tergiverser après la reprise des hostilités en juillet dernier sur, notamment, le renforcement des casques bleus au Soudan du Sud.
Moi, j'ai envie de reprendre le mot que Gérard Prunier, chercheur assez connu, a dit il y a pas très longtemps. Il a traité Salva Kiir d'incompétent. Et je crois que c'est vrai que ce pays est aux mains d'une classe politique totalement incompétente, totalement inconséquente. Et que, après, on peut dire tout ce qu'on veut des Nations Unies, mais elles peuvent pas se substituer au pouvoir en place. Et M. Salva Kiir fait exactement ce qu'il veut. Il utilise tout son argent, ou presque, pour ses besoins personnels et pour les besoins de la guerre. L'Union africaine se désintéresse totalement de la question parce que, bon, on peut...
Il y a eu plusieurs accords de paix et à chaque fois, finalement, ces accords de paix ont été sans lendemain.
Écoutez, on met en place des armées interrégionales pour aller lutter contre Boko Haram dans le nord du Nigeria et autour du lac Tchad. Pourquoi est-ce qu'on met pas sur place la fameuse force africaine, même la force africaine en attente qui, soi-disant, est opérationnelle? Pourquoi est-ce que l'on n'envoie pas ces gens-là pour essayer de résoudre le problème?
Alors, c'est la question de la sacrée souveraineté des États, peut-être, qui bloque. Et puis, finalement, chaque chef d'État au sein de l'Union africaine ne veut pas qu'un jour on vienne avec une armée chez lui. C'est le cas du Burundi, par exemple.
Hein. Je pense qu'il y a déjà une mission. Il y a la mission des Nations Unies au Sud-Soudan, et dont 16 000 hommes militaires, policiers, également des observateurs civils, qui sont là. Et cette mission, pour le dernier exercice, coûtera $1 milliard.
À la communauté internationale.
À la communauté internationale. $1 milliard qu'on aurait pu affecter à autre chose. Et donc, on essaye, mais même les militaires des Nations Unies n'arrivent pas à sortir de leur caserne.
Voilà. Oui. Alors, Denise, famine, insécurité alimentaire, on l'a dit, des violations massives des droits de l'homme au cours de ces 3 dernières années, au Soudan du Sud, 2 millions de déplacés, 1,5 million de Sud-Soudanais réfugiés dans les pays voisins, surtout en Ouganda, des clivages ethniques ravivés, instrumentalisés, dans cette rivalité entre Salva Kiir et Riek Machar. Alors, comment le plus jeune État d'Afrique, parce qu'on a l'habitude de le dire, le Soudan du Sud a accédé à l'indépendance en 2011, comment cet État peut se relever d'une telle situation, même si la paix revenait?
On voit mal comment il pourrait revenir, mais ça pose la question justement de la création de cet État en 2011. Pourquoi a-t-on décidé de couper le Soudan en deux en pensant résoudre une crise?
Oui, parce qu'on avait réduit l'affaire en conflit entre musulmans et chrétiens.
Et on voit bien que même au Sud-Soudan, ça n'a rien réglé. Aujourd'hui, il n'y a que le président Omar el-Bashir qui est poursuivi par la CPI, alors qu'on pourrait très bien également poursuivre
Salva Kiir
et Riek Machar. Parce qu'on sait, très bien aujourd'hui combien de morts cette crise au Sud-Soudan a causé aujourd'hui.
Je pense qu'il y avait quelqu'un, le fondateur du mouvement de la libération du Sud-Soudan, John Garang. Il n'était pas pour la partition, il était pour un Soudan uni, démocratique et laïque.
Mais malheureusement, il est mort prématurément dans un accident. Voilà. RFI TV 5 Monde, on passe au deuxième sujet d'Afrique Presse. Hein. Un jeu de chaises musicales inédit au sommet de l'exécutif marocain. Le roi Mohamed VI a imposé un nouveau Premier ministre, Carlos Sortant, peiné à former un gouvernement de coalition. On écoute Margot Chevange de TV 5 Monde nous brosser le portrait de ce nouveau Premier ministre qui s'appelle Sadedine El Othmani.
C'est l'autre homme fort du parti islamiste. Il est l'un des fondateurs du PJD. Il est très populaire. Il préside d'ailleurs aujourd'hui le Conseil national du parti. De 2012 à 2013, il a été ministre des Affaires étrangères, psychiatre de formation. Il est connu pour ses prises de position courageuses, comme sur l'avortement. comportement qu'il défend sous condition. Il tente de donner une image plus moderniste et pragmatique au PJD. Il avait déjà été pressenti plusieurs fois pour être chef de gouvernement. C'est un homme de consensus très apprécié par les autres partis politiques, ce qui est de bon augure pour les négociations qui vont suivre pour former la majorité au Parlement. Le parti va-t-il maintenir sa stratégie coûte que coûte, qui est de reconduire la coalition de la majorité sortante? Abdelilah Benkirane refusait formellement d'y intégrer les socialistes de l'USFP, mais l'arrivée surprise de Saad Eddine El Othmani à la tête de l'exécutif rebat les cartes et pourrait bien changer la physionomie du futur gouvernement.
Voilà donc Denise, hein, le portrait de ce nouveau Premier ministre du Royaume chérifien, Saad Eddine El Othmani. Alors quels sont ses atouts, Denise, par rapport au sortant Abdelilah Benkirane, pour justement rallier à son panache les partis politiques qui s'étaient montrés plutôt réticents à composer avec le numéro 1 du PJD, du Parti islamiste?
On le présente comme un homme de consensus, et puis la consoeur l'a rappelé dans son reportage, mais je ne pense pas que ce soit le problème se résolve avec grâce à la personnalité d'Othmani, parce que le problème qu'a rencontré son prédécesseur, c'était comment composer, jouer avec les alliances de certains partis qui exigeaient la présence de certaines formations politiques rassemblées, proches notamment du Rassemblement National des Indépendants, et qui souhaitaient surtout la mise à l'écart de l'Istiglal.
Or, aujourd'hui, ce
vieux parti historique. Et si cette question n'est pas tranchée, Othmani n'aura pas de baguette magique pour résoudre cette crise au sein du gouvernement. Et je rappelle que c'est peut-être propre à tous les monarchies, mais on se souvient qu'en 2011, le royaume de Belgique a connu une crise identique qui a duré 574 jours.
Voilà, mais là, c'était lié quand même à cette espèce de régionalisme qui existe et qui pourrit la vie.
Absolument, mais la crise gouvernementale au Maroc n'a pas empêché le Maroc de tourner.
Absolument, on va y revenir. Valérie, donc, à propos de ce nouveau gouvernement, El Othmani a commencé ses consultations ce mardi. Apparemment, il paraît tout de même plus consensuel que son prédécesseur, encore une fois, parce qu'il y avait des dirigeants de forces politiques d'appoint, parce que le PJD, le parti islamiste, n'a pas remporté la majorité absolue pour gouverner seul, donc il faut s'adjoindre d'autres partis. Eh bien, des dirigeants étaient plutôt réticents par rapport même à la personnalité de Benkirane. Alors, peut-être c'est une chance pour El Othmani qui, semble-t-il, paraît plus consensuel.
Oui, peut-être est-ce que c'est ça, son ancienne profession de psychiatre. C'est un diplomate. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il sait parler un peu à tout le monde. Je crois que c'est ça son grand atout. Dans ses discours, on le voit, il fait un peu en avant, puis il fait un peu en arrière, et puis il dit, mais oui, vous avez raison. Et comme ça, il enrobe un peu les choses. Et c'est un type habile. Et puis, je crois que le roi va aussi faire appel à son âme d'année, qui est l'ancien ministre de l'Agriculture, qui est la troisième fortune du Maroc et qui est un peu sa cheville ouvrière, qui, comme ça, qui l'utilise. Et donc, je pense que le jeu de ces deux hommes va faire qu'il va pouvoir y avoir une alliance relativement large. C'est en tout cas qui semble se dessiner.
Denise.
Il y a peu de chances d'ailleurs que Othmani réussisse, parce que faut prendre en compte aussi la réunion du PJD qui va décider de la ligne de conduite du parti, donc il devra la respecter.
Le Maroc a réintégré l'Union africaine.
Il a intégré l'Union africaine, il frappe à la porte de la CEDEAO, et on voit que ces dernières années, Mohamed VI est carrément le VRP du Maroc, avec un ancrage en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est également, notamment au Rwanda et en Zambie. Et l'Afrique centrale, en fait, le seul pays qui trouve grâce à ses yeux, c'est que le Gabon. On ne l'a vu nulle part ailleurs.
Voilà. Alors, est-ce à dire qu'il y a un gouvernement bis, finalement? C'est-à-dire que le palais, aujourd'hui, c'est le palais qui gouverne ou pas, Valérie?
Oh oui, moi, je trouve que c'est le palais qui gouverne. Oui. Bon. Moi, les monarchies constitutionnelles en Afrique...
Vous y croyez que lorsque c'est au Royaume-Uni qui refuse à l'Écosse un référendum d'autodétermination?
Il y a quand même il y a un mieux-être depuis le décès d'Hassan II et l'arrivée de son fils au pouvoir. Il y a beaucoup plus, le monde des affaires grenouille, ça marche mieux, et au plan politique également. Voilà quand même un parti islamiste qui dirige en respectant quand même la nature un peu libérale du régime, et sans gros accrocs. Donc il faut vraiment s'en féliciter aussi.
Voilà, et l'on quitte, si vous le voulez bien, hein, le Maroc pour le Ghana, Denise, le Ghana en Afrique de l'Ouest. Le Ghana, l'une des principales vitrines de ce renouveau démocratique sur le continent africain, où le président Nana Akufo-Addo, élu le 7 décembre dernier, vient de former son premier gouvernement. Alors il s'agit d'un cabinet hors norme, Denise, hein, de par son ampleur. Plus de 110 ministres, autrement dit 40 ministres de plein exercice, 50 ministres délégués et 20 ministres régionaux. Un choix dicté, dit le président, par un souci d'efficacité.
On a du mal à le croire, mais son prédécesseur n'était pas loin hein, de ce bilan-là, puisqu'il y avait le dernier gouvernement de Dramani Mahamat comportait quand même 89 membres ministres.
Il y a une différence de 30 ministres.
Il y a une différence de 30 ministres, mais déjà 89, c'est pas mal. Mais comme disent les Ghanéens, le Conseil des ministres finira par se tenir dans un stade et non plus au palais présidentiel.
Oui. Mais je crois que... Mais qu'est-ce qui a dicté un tel choix selon vous?
Il dit que c'est pour plus d'efficacité et que ça ne coûtera pas aussi cher à l'État puisque certains, près de 50 ministres, sont déjà parlementaires. Mais c'est mal connaître la réalité et la gestion des finances. Bien lui sûr. Qui, justement, a fait campagne sur l'assainissement des finances, j'allais dire, c'est typique des vieux opposants qui arrivent sur le tard au pouvoir et qui sont complètement coupés des réalités. Parce qu'un gouvernement de 110 membres, c'est juste pas possible à faire vivre ensemble pour aboutir à des résultats.
Francis ?
Oui, alors c'est la deuxième bourde politique de Nana Akufo-Addo depuis son arrivée au pouvoir. Vous vous souvenez que son discours d'investiture le 7 janvier était émaillé d'emprunt au président George Bush et Clinton.
Donc, du copier-coller.
Oui, voilà, le copier-coller. Mais la deuxième bourde dépend directement de lui. Parce que 110 ministres dans un gouvernement, c'est vrai que le Ghana a cette particularité d'avoir des ministres régionaux qui eux-mêmes ont des adjoints, des ministres adjoints, mais 110 ministres pour une population de 17 millions d'habitants, j'ai fait le calcul, ça fait un ministre pour 245 000 habitants. Je pense que c'est trop pour un pays qui croule sous une dette estimée à 30 milliards de dollars.
Alors, lorsque l'opposition dit que justement certaines nominations sont quasiment relèvent de l'illégalité ou certains ministres, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je ne pense pas qu'il faille aller jusque là, mais le chiffre est là et c'est pléthorique. Un pays comme celui-là ne peut pas se permettre d'avoir 110 ministres, surtout pour un président qui a fait toute sa campagne sur la rigueur budgétaire, quelqu'un qui connaît la politique parce qu'il en est à sa troisième tentative. Il a été élu président à sa troisième tentative, il a été ministre des Affaires étrangères, son père lui-même a été président à titre intérimaire dans le passé, donc c'est quelqu'un qui a toujours baigné dans la politique. Ceci dit, le Ghana n'a pas le privilège par tête d'habitant,
la
Guinée équatoriale, par tête d'habitant, il y a un ministre pour 9000 habitants.
Alors, ce gouvernement ghanéen pose Denise, hein, évidemment, qui, à mon avis, va entrer dans la postérité par le biais du Guinness Book des records. En dehors de ça, je veux dire, ça traduit aussi peut-être le fait que, finalement, les nominations de certains ministres, hein, y compris dans des gouvernements pondérés, n'est pas la traduction d'une efficacité et ne répond pas forcément aux attentes, je dirais, d'une mission que pourrait conduire. On ne choisit pas les ministres uniquement sur des critères d'efficacité en règle générale.
C'est vrai pour le Ghana, mais c'est vrai pour la majorité des pays africains. Non, il y a surtout un équilibre ethnique très souvent qui est l'argument prioritaire. Et ensuite, sont les affinités entre le président et certaines régions ou certaines personnalités. On voit mal comment, avec un déficit budgétaire et notamment la chute des cours des matières agricoles, et notamment les matières agricoles, puisqu'on dit que le taux de croissance de l'agriculture ghanéenne, qui était un des plus florissants dans la sous-région, hein, est aujourd'hui à 2,6. C'est le plus bas qu'on ait connu depuis ces deux dernières décennies. On voit mal comment, avec 110 ministres, il va pouvoir gérer tout ça. Et Francis parlait tout à l'heure du ratio entre la population et le nombre de ministres. On a l'impression qu'il y a un ministre pour chaque région du Ghana. C'est impossible à gérer.
Francis ?
Oui, je pense que c'est un homme intelligent. qui a du métier et qui va sûrement faire des correctifs après.
Voilà, eh bien, nous sommes au terme de cette émission. Merci Valérie Thorin, merci Denise Epoté, merci à vous Francis Patindé, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à réécouter ou à revoir hein, sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse et rendez-vous à la semaine prochaine.